Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Le 17 avril 1975, les Khmers rouges prennent le pouvoir à Phnom Penh. En 4 ans, ils vont tuer près de 20% de la population cambodgienne. Voici l'histoire de Pinyatai, un Cambodgien qui a vu mourir toute sa famille et qui a réussi à s'enfuir en Thaïlande. Je la tire de son livre qui paraît chez Archipoche. « Tu vivras, mon fils ». Simon Veil m'a aidé à écrire cette histoire. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Phnom Penh, 17 avril 1975. Je regarde ma montre, 5 heures. Je sors du lit, je vais à la fenêtre, je regarde et bah, la rue est pleine de gens. On dirait que tout le pays est là. Annie ! Annie, c'est la fin ! Les Khmers rouges seront bientôt là, il faut partir. Mais qu'est-ce qui va se passer, Yatai ? T'inquiète pas. Ce sera difficile pendant quelques temps et puis tout rentrera dans l'ordre. Pour l'instant, il faut habiller les enfants et gagner en vitesse le centre-ville avant l'arrivée des troupes. J'ai 3 enfants. Soudat, 9 ans. Nawat, 5 ans. Et un bébé, Stoud. Ça fait une semaine qu'on a tout prévu. Toute la famille doit se retrouver chez Juan, un cousin. On a fait le plein d'essence, il ne nous reste plus qu'à remplir 2 valises. Des vêtements, les bijoux d'Annie, nos économies et 3000 dollars en billets de 100. Une petite radio pour écouter les informations. Et aussi du papier, un crayon, un manuel technique sur l'irrigation. Je suis ingénieur, ça peut servir. Et un dictionnaire français-anglais. Je jette un dernier regard. Est-ce que j'aurais dû les envoyer à l'étranger? Non. Je déteste le régime corrompu qui est en train de tomber, celui du maréchal Lon Nol. Je n'ai rien à craindre des Khmers rouges. Ce sont des patriotes. Je connais beaucoup de gens qui les soutiennent. Mon père me dit que je me trompe, mais non. Ça reviendra comme avant. Ça sera toujours mieux que le régime pourri de Lon Nol. Je retrouve mes beaux-parents qui sont déjà dans leur Austin. Je fourre mes bagages dans ma Fiat. Et on s'engage dans la rue. Un torrent de piétons et de voitures, de vélos, de motos, de charrettes. Et on fait quoi? 100 mètres. À une rue de chez nous, s'élève une colonne de fumée. Il nous faut 2 heures dans cette marée humaine pour rejoindre le quartier de mon cousin Ho, près du fleuve. Et quand j'arrive, toute ma famille est là. Ho, ses 2 sœurs, leurs enfants, mes 2 frères et leurs enfants, au moins 30 personnes, soulagées de nous voir. Les enfants courent jouer dans le jardin, les femmes se retrouvent à la cuisine, sauf ma sœur Wak, qui reste avec nous, les hommes. Qu'est-ce qui se passe en ville? Oh, je suppose que les 2 camps sont en train de trouver un arrangement. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'annoncent pas à la radio, alors? Faut pas s'inquiéter. On aura bientôt un autre gouvernement avec le prince Sihanouk à sa tête, vous verrez. Sur une desserte, il y a une radio allumée. Elle ne diffuse que de la musique militaire. Mais mon père, lui, répète ses mises en garde. Ce sont des communistes, Thaï. Des communistes. Ce qu'ils veulent dans ce pays, ça va mal se terminer. Mais non, papa, enfin. C'est des rumeurs, ça. C'est de la propagande. Leur programme n'a rien de communiste. J'ai des amis chez eux. Ils ne me mentiraient pas. Et là, ma mère prend la parole. Montre un peu plus de respect à ton père, Thaï. On a parlé à des gens qui ont fui les zones libérées. Ils ont tué leur famille et brûlé leur maison. Les Khmers rouges sont cruels, Thaï. J'étais sûr d'avoir raison. À peu près 1 heure plus tard, on entend une clameur dehors. Mon cousin Sim sort pour voir, il revient en trombe.
Thaï ! Thaï ! Ce sont les Khmers rouges ! Ils sont là !
On va jusqu'au portail, et je vais jusqu'au boulevard Mon Ivong pour voir. On se fraye un chemin à travers la cohue, les gens sur les trottoirs, et au milieu, je les vois. Une colonne de soldats, comme je n'en ai encore jamais vu. Habillés de noir, des uniformes taillés comme des pyjamas, des casquettes chinoises noires, Ou pas. Le regard droit devant eux. Pas un sourire. Et quoi? 18 ans de moyenne d'âge. Des adolescents au visage. Dur. Dur. Alors qu'ils reçoivent un accueil chaleureux. Des automates. On rentre chez Ron. Bon. Voilà. Tout revient à la normale. Et on reste à discuter, à rire. On s'apprête à déjeuner ensemble. Et tout d'un coup, un homme arrive, essoufflé, apeuré, les vêtements en désordre.
Les Khmers Rouges. Les Khmers Rouges, ils nous ont fait sortir de nos maisons. Ils nous ont dit de partir de la ville. Tous. Qu'est-ce qu'on fait?
Ils plaisantent. Une évacuation de la ville? Mais quelle idée invraisemblable. Je décide d'aller consulter notre oncle, le patriarche Wat Tat, la plus haute autorité du bouddhisme cambodgien. On arrive à sa pagode au bord du fleuve. On s'agenouille, on fait nos trois saluts, les mains jointes devant le front. Et on s'assoit en tailleur pour l'écouter.
Une évacuation ne serait pas logique. Gardez votre calme. Attendez les ordres.
Le lendemain, 18 avril, on se lève avant l'aube, on fait nos bagages, et juste avant le lever du jour, trois Khmers rouges apparaissent à la porte.
Camarades, vous devez partir, maintenant. N'emportez pas grand-chose, il n'y en a que pour 3 jours. Les Américains vont bombarder la ville.
Des bombardements américains? Mais ça ne tient pas debout. Enfin, ils nous ont abandonnés à notre sort il y a 6 jours. S'ils avaient voulu bombarder les Khmers Rouges, ils l'auraient fait à ce moment-là.
On rassemble des vêtements, de la nourriture, des couvertures et des ustensiles de cuisine.
Et on s'entasse, j'ai compté à 32, dans 3 voitures, plus une moto et un vélo.
Et on s'engage dans une cohue sur le boulevard Monivong, en direction du sud.
Je reconnais des gens. Des ingénieurs, des fonctionnaires, des professeurs, des médecins, là, des infirmières. Je vois un homme qui porte son père malade sur le dos. Je vois des éclopés avec des béquilles, des malades sur leur lit d'hôpital à roulettes, des gens qui ont entassé des objets sur un cycle au pouce.
Mais où allons-nous?
Vers 10 h, il fait terriblement chaud. On est au mois d'avril. C'est le mois le plus chaud, c'est la fin de la saison sèche. On a parcouru quoi? 1 kilomètre quand soudain. Je regarde autour de nous, et là, sur les marches d'une maison, je vois un jeune homme de 18 ans, et à 15 mètres de lui, un soldat Khmer Rouge, le canon de son AK-47 encore fumant. Le gamin avait oublié quelque chose chez lui. Il a voulu faire marche arrière.
Vers 13 h, on s'arrête à la faculté de droit. Et on passe la nuit là, avec 2 ou 3 Khmers rouges armés qui font des rondes. J'ai une radio, mais je n'ose pas l'allumer. On est resté là 3 jours. Et le matin du 4e jour, on est reparti en direction du sud. On a repris la route, 1 jour, 2 jours à toute petite vitesse. Et plus on s'éloigne, plus les malades, les blessés, les vieillards, les impotents sont épuisés, le regard vide. On croise 2 fois des femmes pendues à des arbres. Elles se sont suicidées. Et sur le bas-côté, on croise de plus en plus de corps abandonnés. Les gens ne tiennent plus le coup que grâce à la famille.
Le soir du 7e jour, ils sont venus nous prendre notre moto.
Elle est à qui cette moto? L'Ankar en a besoin.
L'Ankar, l'organisation. Si mes voix qu'on voulu protester.
Vous osez dire non à l'Ankar?
Il a tiré en l'air, juste devant le visage de ma sœur.
Le matin du 10e jour, à l'entrée de Koh Tom, 4 soldats Khmer Rouges nous arrêtent sur le bord de la route.
Est-ce que vous avez des imprimés dans votre voiture? Videz la voiture de tout ce qui est imprimé. Tout. Tous vos papiers, tout. Oui, vos livres aussi, tout ce qui est imprimé.
Je lui montre mon dictionnaire français-anglais, mes manuels techniques.
Ha ! C'est de la pensée impérialiste, ça. C'est les restes d'une culture féodale. Jetez-les.
On a tout jeté. Même la carte grise de ma voiture. De toute façon, 1,5 km plus loin, ils nous ont pris la voiture. Et ils nous ont donné un reçu. Un jeune Khmer rouge nous fait signe d'approcher.
Votre nom ? Profession ? Âge ?
Je réponds de bonne foi, je dis la vérité. Lui, il note.
Vous avez des dollars ?
J'hésite. La liasse est dans ma poche. Mais personne ne me fouille. Ils doivent penser qu'on ne dira jamais non à l'encart. Une partie de ma famille a voulu rejoindre des amis à Takeo. On se remet donc en marche vers le sud. On est 18. 18 dont 3 personnes âgées et 7 enfants. Quand on arrive à Chuuk Mao, des haut-parleurs diffusent un chant révolutionnaire strident. Des soldats nous conduisent à une pagode et pour la première fois, ils nous donnent à manger. Et après, ils se mettent à nous fouiller les poches et les bagages. Et j'ai toujours mes 3000 dollars dans la poche. Alors j'appelle mon fils, je l'attire vers moi.
Dis, Nawat, tu vois les enfants qui s'amusent là-bas? Tu peux pas aller jouer avec eux?
Et je lui passe mon paquet de dollars qu'il fourre dans sa poche. Ils ne se sont pas intéressés aux bijoux d'Annie, ni à mon magnétophone. Ils ne voulaient que des dollars. Le lendemain, même chant révolutionnaire dans les haut-parleurs. Ils nous attribuent une paillote en bambou sur pilotis, en bon état. Et l'après-midi, la cacophonie musicale est interrompue par une voix rauque.
Vous êtes convoqués dans le hall de la pagode pour une réunion politique.
Et là, on se retrouve face à une demi-douzaine de cadres Khmer rouges, hommes et femmes, tout en noir, rassemblés autour d'un homme que je suppose être le chef. On se réunit par famille, on est triste, là, résigné, des zombies.
Ici par Anka. Durant le règne des impérialistes, vous ne pouviez pas vous déplacer sans papier d'identité. Eh bien, désormais, vous n'en avez plus besoin. Ces papiers vous humiliaient. Ils étaient comme des médailles au cou des chiens. Vous êtes libre maintenant. Délivré des impérialistes. Ces Khoars se sont enfuis. Les impérialistes nous ont abandonnés. Mais l'Ankar est clémente. Malgré votre collaboration à l'ancien régime, l'Ankar vous pardonne. L'Ankar est généreuse. Elle promet de vous nourrir, de vous loger, si vous abandonnez vos anciennes coutumes et vos vêtements coloniaux et occidentaux. Vous devez éliminer toute trace d'impérialisme, de féodalité, de colonialisme. Nous vous remercions d'être venu écouter l'Ankar. Maintenant, rentrez chez vous.
Ce type n'a aucune instruction. Ça s'entend. Il récite par cœur des clichés révolutionnaires. À ce moment-là, je crois encore que les Khmers rouges vont m'appeler pour aider à la reconstruction de mon pays. Le lendemain matin, à 5h30, on est tiré du sommeil par le haut-parleur.
Camarades, il est l'heure de se réveiller. Soyez à la pagode à 6h. Préparez-vous pour le travail.
Y compris les femmes et mon fils de 9 ans. Il nous distribue des haches et des machettes. Il nous sépare en groupes d'hommes, de femmes et d'enfants. Et on nous emmène dans un champ qu'il faut défricher pour en faire un champ de maïs. Et toute la journée, je coupe, j'arrache. J'ai mal aux mains, j'ai mal aux bras, j'ai mal aux jambes, mais je ne vais pas me plaindre. J'ai vu des enfants et des vieillards mourir sur le bord de la route. Et ma famille à moi est indemne.
Et puis les Khmers rouges n'ont pas l'air si menaçants. Quand ils nous parlent, ils sont calmes, ils sont courtois. Je ne peux pas me plaindre. On nous a conseillé de teindre nos vêtements en noir, en les plongeant dans de la boue la plus noire possible. Et de ne plus porter de lunettes. Et encore moins de lunettes de soleil. C'est impérialiste, les lunettes de soleil. On mange du riz et du sel, avec parfois un peu de poisson séché. Plus de sport, plus de loisirs, et pas de médecin. Ni de jouets pour les enfants, et pas de livres, pas d'école. 2 à 3 séances d'éducation politique par semaine, et un informateur qui rôde autour de nos maisons pour voir ce qu'on fait et ce qu'on dit. Et toujours des illusions. Moi, je pense qu'ils veulent nous tester. Je pense qu'ils nous renverront à Phnom Penh quand le temps de la pénitence sera terminé, c'est tout. À un moment, ils vont avoir besoin d'ingénieurs, d'enseignants. Tous les jours, il y a des morts. Et on les enterre sans moines, sans prière. Et on commence à manquer de nourriture. Stod, mon fils de 2 ans, a le ventre qui gonfle. Et ma femme Annie n'a plus ses règles. Au mois de juillet, 3 mois après qu'on a quitté Phnom Penh, au cours d'une réunion politique,
y a-t-il parmi vous des personnes originaires de la province de Kampong Speu et de Kampot qui souhaiteraient retourner dans leur village?
Mes parents ont vécu à Udong, près de Kampong Speu. Alors je lève la main, et eux aussi. Le lendemain, on est 80 devant le bateau qui doit nous faire remonter le fleuve.
Vous êtes trop nombreux. Donc certains vont devoir partir à pied. Mais ne vous inquiétez pas. Vous vous retrouverez là-bas.
Je le redoutais, ça. Il faut donc nous séparer. Mes parents prennent le bateau avec les enfants. Et nous, on part à pied avec les bébés. Et on repasse par Koh Tom. Et là, sur le bas-côté, je vois ma voiture, ma Fiat, symbole de mon ancienne vie. Elle n'a plus de pneus, les jantes sont rouillées, le pare-brise éclaté. Quand je pense que j'ai cru que je pourrais la récupérer en présentant mon reçu et rentrer à Phnom Penh. Finalement, on se retrouve tous à Plek Tadwong. Ouf! Et là, mon père me raconte une drôle d'histoire.
Tai, figure-toi que sur le bateau, un homme a critiqué l'Anga. Et là, ils l'ont fouillé. Et ils ont trouvé sur lui $10,000. Eh ben, tu sais pas ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté les billets à l'eau, Tai. Ils les ont jetés à l'eau, ils les ont pas gardés.
Des ignorants. Ils nous ont fait monter dans un camion, à 30 ou 40. Et on est remonté vers Phnom Penh. On a tourné à gauche vers une piste forestière. Mais où est-ce qu'ils nous emmènent?
Ils nous ont menti. Ils nous ont trompés. On ne va pas à Kampong Speu.
On s'est retrouvé à Sramarlir, dans la province de Takeo.
Camarades! Vous allez bientôt retourner dans vos villages. Mais pour l'instant, nous sommes en juillet. C'est la pleine saison des cultures. Vous devez travailler ici pour cultiver le riz et produire notre nourriture. Après, vous partirez. Mais l'Ankar vous demande de rester ici. Ce sera l'occasion de vous purifier.
Ils nous ont attribué une pièce dans un bâtiment en briques dans l'enceinte de la pagode. Et le travail commence le lendemain. Annie repique le riz dans les champs, et moi je deviens laboureur. Mais un mois plus tard, les rizières s'assèchent, et tous les plants meurent. La sécheresse. Alors on nous mobilise pour construire un grand canal pour amener l'eau du lac. En allant sur le chantier, on entend un drôle de bruit, comme des marteaux qu'on frappe sur du métal. Alors on s'arrête. On regarde à l'intérieur, et là on voit une Mercedes flambant neuve et 5 forgerons qui sont en train de la désosser.
Qu'est-ce que vous voulez, vous?
Rien. Regardez votre travail, vous faites quoi?
On fait des socs de charrue. C'est-à-dire qu'on transforme un objet impérialiste en chose utile pour la révolution. Voilà. Ah ! Merveilleux !
Notre travail est une perte de temps. On creuse. Mais personne n'a vérifié si les canaux qu'on est en train de creuser ont une pente descendante depuis le lac. Ils croient que la ferveur révolutionnaire peut remplacer les lois de la physique. Et quand on ose le leur faire remarquer...
Vous ne connaissez rien à la révolution. Nous aussi.
Un soir, début septembre, lors d'une réunion politique...
Y a-t-il des gens ici qui viennent de Batamban et qui veulent y retourner?
Je lève la main.
Vous êtes de Batamban? Vous avez dit l'autre jour que vous étiez de Kampong Speu.
Oui, mais c'est ma femme et sa famille qui sont de là-bas.
On fait nos bagages le soir même. Et pour aller à Batamban, il faut traverser Phnom Penh, la capitale. Quand on arrive dans les faubourgs, au niveau de l'aéroport Pochentong, personne, pas un habitant. Les jardins envahis par la végétation. Au passage, j'essaye de voir la maison de mes beaux-parents, elle est trop loin. On est sans nouvelles d'eux. Annie n'en parle jamais. On traverse le quartier de Tuol Kok, un désert. Le bâtiment de la télévision, envahi d'herbe. Le stade Lambert, plongé dans le silence. À droite, l'ambassade de France, désertée. Les camions poursuivent leur route vers le nord. On passe par Udong, où je suis né.
Regarde, Soudat. Tu vois là, c'est la maison de ton grand-père.
On traverse Kampong Chnang, déserte. Et le lendemain, après une pause la nuit, on prend la route de Pursat.
Oubliez Batamban. Ils nous ont encore menti. Et la route s'arrête là, d'un coup, au bord d'une rivière, où attendent déjà des milliers d'autres déportés.
D'après ce que j'ai compris, on va devoir aller dans la forêt pour défricher l'une des régions les plus sauvages du Cambodge, les Cardamones. 6 mois après notre départ de Phnom Penh, mon petit dernier, Stod, ne va pas bien du tout. Il n'a même plus la force de pleurer. Un soir, il a beaucoup de fièvre. Ce soir-là, il pleut beaucoup. Il pleut tellement que de l'eau ruisselle dans notre paillote. Une dernière fois, il crie « Mac, Mac, maman, maman !» Et il est mort. C'est le premier mort de notre famille. Et je vous le dis, ce n'est pas le dernier. Ils vont tous mourir, un par un. Et je serai le seul, à me sortir de cet enfer. Ça fait 8 mois qu'on a quitté Phnom Penh. Et on est transféré dans le village de Don Hay, au nord-ouest. Et là, mon travail consiste à battre le riz avec des bœufs. Ils piétinent le riz, ça permet de séparer le paddy des tiges. Et après, on rassemble la paille, je balaye le paddy, et les femmes ramassent les grains. Et à Don Hay, par groupe de 20, tous les 3 jours, on doit participer à des séances d'autocritique, à voix haute, les yeux baissés.
Je m'abaisse devant la suprême Anka. Je m'abaisse devant ceux qui sont rassemblés ici, afin qu'ils puissent me voir. Je peux voir devant moi la boue qui me tache, mais seuls mes camarades voient la boue qui est derrière moi. Camarades, j'ai besoin de votre aide pour prendre conscience de mes fautes et de mes erreurs. Je m'abaisse devant l'Angkar. Je dois être un bon révolutionnaire. Je remercie l'Angkar.
Et là, on doit tout dire, tout révéler, Quel travail on a fait, s'il a été bien fait, si on a travaillé dur. Le nombre de pauses qu'on a prises, combien de fois on est allé déféquer. Tout, en terminant toujours par cette formule rituelle.
Je m'abaisse pour que l'Ankar puisse me purifier, me critiquer et m'éduquer à devenir encore plus soumis.
Début mars, on m'annonce qu'une équipe médicale vient d'arriver. La première depuis presque un an. Alors évidemment, tout le monde se prétend malade. Et j'y vais aussi. Et je tombe sur de soi-disant médecins, garçons et filles, tout en noir. Ils ont devant eux une table sur laquelle se trouvent une vingtaine de bouteilles de soda, Coca, Pepsi, 7-Up, peu importe. Dans la moitié, il y a un liquide marron qui, soi-disant, apaise les douleurs. Et dans l'autre moitié, un liquide blanchâtre, un fortifiant.
Vous avez mal quelque part ?
Non. Non, mais je suis épuisé, je suis exténué.
Et là, elle attrape une seringue qui a déjà servi au moins 10 fois sous mes yeux. Et sans la désinfecter, elle la plonge dans la bouteille de Pepsi. Et ensuite dans mon bras. 2 jours plus tard, je me réveille inondé de sueur. Et au travail, je frissonne toute la journée. Et bien sûr, impossible d'accuser la piqûre. On ne critique pas l'Ankar. Alors, c'est peut-être le paludisme. Le paludisme, trop de travail, pas assez de nourriture. La situation à Don Hay est devenue catastrophique. Coliques, dysenterie, fièvres diverses et variées, et une étrange maladie. Des œdèmes, du liquide qui s'accumule dans les pieds, dans les mains, qui se met à gonfler, jusqu'à ce que la peau devienne translucide. Mais aux séances d'autocritique, je dois répéter.
Je ne mange pas très bien. L'Ankar n'a pas assez de nourriture. Mais ça me permet de m'habituer à la faim et de devenir plus résistant. L'Ankar m'aide à m'endurcir et je l'en remercie.
Maintenant, mes parents ne sont plus avec nous. Ils sont dans un village à côté. Je vais les voir et je trouve mon père étendu sur une natte.
Oh, Thaï. Thaï, je croyais que j'allais mourir sans te revoir. Je vais bientôt mourir, tu sais. Ce sera une délivrance. Mais toi, Thaï, toi, tu dois t'en sortir. Tu vivras, mon fils. Tu vivras pour fuir. Fuis pour vivre. Allez, pars. Tu vivras, mon fils, hein? Tu vivras.
Il est mort 3 jours plus tard. Et le bébé de mon frère est mort aussi, de la colique. Et mes sœurs sont mortes aussi. Et puis ma mère, mes neveux, ma nièce, mon frère. Mon père m'a demandé de vivre. Mais est-ce que dans cet enfer, la mort n'est pas préférable à la vie? Est-ce que la mort, au lieu d'être une ennemie à combattre, n'est pas une amie qui nous délivre des souffrances? Un homme me raconte une histoire incroyable.
Ils ont découvert un cadavre. Il a été dévoré par une dizaine de gens, Thaï.
Je peux le comprendre, ça. On a perdu notre humanité. Mais quand les Khmers rouges ont appris ça, ils ont dit que c'était des ogres, et dans la mythologie cambodgienne, les ogres, mangeurs de chair humaine, sont la figure du mal.
Ces ogres ne feront pas long feu. Nous avons un camp spécial pour eux. Ils ne survivront pas plus d'un mois, et... ça n'est que justice.
Un jour, grâce au troc, je réussis à trouver un peu de riz. Alors je pars tout de suite chercher des petits animaux pour l'agrémenter, des grenouilles, des sauterelles, des criquets, des têtards, des escargots, des lézards, et pourquoi pas des serpents. Quand je rentre, mon fils Nawat a tout mangé.
J'ai pas pu résister, papa. J'ai essayé d'en manger un tout petit peu, mais j'ai pas pu.
Et là, j'attrape une baguette. Et je me mets à le rouer de coups. Et lui, il crie « Pardon, pardon, papa !» Et là, Annie me tire le bras. La faim nous rend fous. Alors je prends Nawat dans mes bras. Et je le berce en pleurant avec lui. Début mai, un Khmer Rouge fait irruption chez nous. Et là, mon fils Sudat court se cacher. Le Khmer Rouge va le tirer de sa cachette.
Dis donc, toi, où est-ce que tu travailles?
Mais enfin, mon fils a une blessure à la jambe. Il peut pas travailler.
Ah bon? Et comment court-il si vite? Il est fort. Il peut travailler.
Il est parti travailler, maigre, la peau tendue avec cette blessure à la jambe. Et 5 jours plus tard, on est venu nous dire qu'il était mort. De quoi? J'ai demandé à voir le corps. Il l'avait déjà enterré. Nous ne sommes plus que 3. Annie, moi et notre fils Nawat. Un après-midi, un cadre du village vient me chercher.
Il y a une femme morte là-bas. Vas-y, enterre-la.
Je connais bien cette famille. Ils étaient 6, ils ne sont plus que 3. Une institutrice et sa fille, et sa sœur. J'arrive chez elle, je grimpe à l'échelle. C'est la sœur qui est morte. Elle est là, enveloppée dans des chiffons et de vieux vêtements. Il n'y a que la tête qui dépasse. On descend le cadavre, on va l'enterrer à 500 mètres. Dans un bosquet. Le lendemain, à la cantine, j'assiste à une scène pitoyable. L'institutrice, en larmes, une joue dans la boue, presque nue, et sa fille à côté.
Qu'est-ce qui s'est passé?
On me raconte qu'on a retrouvé des morceaux de chair humaine dans sa marmite. Elle a découpé en morceaux le cadavre de sa sœur avant que je ne l'enterre, et elle l'a mangé. Et si elle est là par terre à moitié nue, le visage tuméfié, c'est que les Khmers rouges l'ont battu.
Dégagez! N'ayez pas pitié pour cette ogresse!
Le soir, quand je suis allé prendre un bol de soupe à la cantine, elle était toujours là, dans la boue. Elle était morte. Je n'ai jamais su ce qu'est devenue sa fille. Je connais un homme cultivé, Sem. C'est un ancien responsable des douanes qui était assez bien placé sous le régime du prince Yanouk. De temps en temps, il dit quelques mots en français. Et désormais, la nouvelle constitution des Khmers Rouges nous autorise à posséder de petits objets personnels. Et donc un jour, Sem a sorti sa montre, une belle Omega en or. Et au déjeuner...
Et moi, camarade, je voudrais t'emprunter ta montre. C'est pour l'encart.
Un camarade, je ne peux pas vous la prêter. J'en ai besoin pour être à l'heure au travail.
Regarde-moi, camarade. Je suis le chef du groupe. Et je n'ai pas de montre. Et moi, je dois annoncer l'heure à des centaines de travailleurs. Prête-moi ta montre.
Pardon, camarade. J'ai besoin d'un renseignement. Selon la nouvelle constitution, j'ai le droit de la garder, non?
10 jours plus tard, au déjeuner, le chef Khmer Rouge aborde la montre à son poignet. Et je les entends qui parlent entre eux.
Camarade, je vois que tu as une nouvelle montre. Oui, c'est celle de Sem. Tu te souviens? Celui qui employait tout le temps des mots français impérialistes. Je l'ai amené à la rééducation. Il a voulu s'enfuir. Je l'ai abattu.
Un jour à une séance d'autocritique.
Yatai, comment conçois-tu ton travail? As-tu fait des erreurs? As-tu vu un camarade faire des erreurs? Ou une chose défendue?
J'ai travaillé dur, camarade. Mais l'autre jour, je me suis endormi en gardant les bœufs. Pas longtemps, juste 5 minutes. Et il y en a un qui s'est enfui. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas retrouvé. J'ai fait une faute, camarade. Et je demande à l'encart de me juger. J'accepterai votre sentence.
Camarade, c'est bien d'admettre ton erreur. Mais pourquoi as-tu attendu tant de temps pour nous le dire? As-tu l'intention de saboter notre travail?
Je reconnais ma faute.
Ils se sont levés un par un. Et tour à tour, ils m'ont critiqué, à voix haute. Jusqu'à ce que le chef prononce sa sentence d'une voix glaciale.
Tu n'es toujours pas réformé. Tu as encore une attitude de petit bourgeois. Ta conduite porte atteinte à la révolution. Nous allons donc employer l'éducation chaude. Je demande à trois de tes camarades de te corriger.
Ils m'ont asséné une pluie de gifles, de coups de pied et de coups de poing. Je n'ai pas riposté. Je n'ai pas crié non plus. J'ai subi pour survivre. Au troisième trimestre de 1976, les gens continuent de mourir.
Dans le nouveau Kampuchea, 1 million de personnes suffisent pour continuer la révolution, n'est-ce pas? Nous n'avons pas besoin du reste. Et nous préférerons toujours tuer 10 amis que de garder un seul ennemi en vie.
Je n'ai plus qu'une idée. Fuir. M'évader. Ça m'obsède. Début novembre 1976, arrive ce que je craignais le plus. On est à la table, à la cantine. Et là, je vois un Khmer rouge qui n'arrête pas de me regarder. Il s'approche.
Je vous connais, non?
Non?
Comment vous appelez-vous?
Thaï. Je m'appelle Thaï.
Ah. Vous ne seriez pas Pigna Thaï? Vous étiez directeur des travaux publics, hein? Vous êtes ingénieur, formé par l'Amérique impérialiste.
Comment me connaissez-vous?
Je vous connais bien. Et vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas? J'ai travaillé pour vous pourtant sur un chantier sur la route de Pursat. Évidemment, vos ouvriers vous connaissent, mais vous, vous ne les connaissez pas. Hein? Je suis trop petit, et vous sans doute trop important.
Mais j'ai toujours bien traité mes employés. Vous en souvenez sûrement?
Je ne vous ai pas dit que vous aviez commis une erreur. Mais vous étiez le supérieur de Souni, qui lui m'a renvoyé. Et en plus, en vous faisant appeler Thaï, vous avez dissimulé votre identité à l'encart.
2 jours plus tard, on vient me prévenir.
Thaï, tu es en danger, Thaï. Je les ai entendus parler de toi. Il a suggéré de t'emmener dans la forêt. Les autres lui ont dit que tu étais malade, que tu allais mourir. Alors ils ont décidé d'attendre une semaine. Mais si tu n'es pas mort d'ici là, ils vont t'emmener dans la forêt.
Quand il est parti, je m'assois, immobile. Ma première réaction, renoncer, me soumettre. Ils vont m'abattre comme un chien loin dans la forêt. De toute façon, je vais mourir. Et puis, l'instinct de survie reprend le dessus. Reprends-toi. Réfléchis. Sors de là. Mais que faire? Partir seul? Je vois Nawat au fond de la pièce, couché sur le ventre, les membres gonflés. Non. Non, je ne le laisserai pas, ni lui, ni Annie. Mais est-ce que je peux m'enfuir avec eux? Non. Il vaut mieux qu'ils restent ici plutôt que de mourir avec moi. Alors après dîner, Nawat s'est endormi derrière son rideau au fond de la paillote. Annie. Annie, ma chérie. Viens. Approche-toi. J'ai quelque chose à te dire. Je suis condamné, Annie. J'ai été formé en accident. Pour eux, c'est impardonnable. Ils vont venir me chercher dans une semaine. Mais toi, même si tu es ma femme, si tu restes seul ici avec Nawat, je pense pas qu'ils vont te faire de mal. Elle ne dit rien, mais son regard.
C'est la seule solution, Annie. Je vais tenter ma chance dans la forêt. Si je réussis, on se reverra.
Tu veux partir? Tu veux me laisser ici avec Nawat? Mais Thaï, mon chéri, je préfère mourir avec toi que de rester ici.
C'est la première fois, de toute notre vie à deux, qu'elle ne se range pas, à mon opinion. Elle aussi, elle ne veut pas choisir entre la vie et la mort. Elle est lucide. Elle veut juste choisir sa façon de mourir, c'est-à-dire avec moi.
Mais Thaï, si on part tous les deux, qu'est-ce qu'on va faire de Nawat? Il peut pas venir avec nous, il peut pas marcher longtemps, on peut pas le porter. Ils vont nous rattraper, ils vont nous tuer. On doit le laisser ici, Thaï. Mais on peut pas le laisser.
Annie, est en train d'accomplir le plus grand sacrifice qu'une mère peut faire. Abandonner son fils pour tenter de se sauver.
Qu'est-ce qu'on va faire de Nawat, Taï?
On l'amène à l'hôpital. C'est ça qu'il faut faire. On l'amène à l'hôpital. Le lendemain, je suis allé demander au chef de village d'amener Nawat à l'hôpital. Et comme il était très malade, que ses pieds, ses mains, ses joues étaient enflés, il a dit oui. À l'hôpital, je mets Nawat dans un lit. Et là, j'entends une voix, une femme.
Oh, c'est incroyable! Cet enfant ressemble bien comme deux gouttes d'eau. Moi, mes enfants sont morts maintenant. Hein? Vous pourriez peut-être vous occuper un peu de lui puisqu'il ressemble à votre fils. Ah oui, je m'occuperai de lui. Je vous en prie. Ma femme et moi, on est malades. Prenez soin de lui.
On a mis 3 jours à se décider à partir. Et avant de partir, je suis retourné voir Nawat à l'hôpital. J'ai enlevé mon alliance et je l'ai glissée dans sa poche. Garde-la sur toi. Et mets-la quand tu seras grand. Tu dois vivre, Nawat. Que Bouddha et les bons esprits veillent sur toi. Souviens-toi, Nawat. Tu vivras, mon fils. Et maintenant, il faut tout planifier et vite. Il y a un chantier d'irrigation, pas loin. Il nous faut des informations sur le chemin pour y aller. Annie connaît une fille, Mom, qui a travaillé là-bas. Elle va la voir. La fille se retrouve toute seule. Elle veut partir avec nous. Et elle nous conseille d'aller dans une carrière où les gens sont envoyés casser des pierres. Et moi, je fabrique de faux laissez-passer. J'ai encore du papier et un stylo à billes bien caché. J'imite la signature du chef de village. Les Khmers rouges sont des illettrés. Ils n'y verront que du feu. On quitte le village à l'aube, un matin de novembre 1976. Je marche loin devant les femmes. J'ai mis une chemise noire, une casquette chinoise et des sandales au chimine. On a 16 kilomètres à parcourir jusqu'à cette carrière. Et je n'ai aucune idée de ce qu'on fera après. On est resté 6 mois dans cette carrière. Le temps d'étudier un itinéraire pour notre grande évasion vers la Thaïlande. On est parti en mai 1977 avec un tout petit groupe en file indienne dans la jungle. Tous les autres ont été arrêtés, sauf nous deux et une amie d'Annie. Un soir, le 9e jour je crois, on arrive au sommet d'une montagne. La nuit commence à tomber, on s'installe pour dormir. Et là, je fais un petit feu. Aucun risque, hein, la fumée se perdra dans les arbres. Mais au moment de nous coucher, ce petit feu s'étend à des herbes sèches. J'essaye de l'éteindre, j'y arrive pas. Il faut partir, Annie. Il faut ramasser nos affaires, on file. Et là, on dévale la pente, affolé, et à peu près à 200 mètres plus bas, Annie me dit
« La boîte, Taï. On a oublié la boîte. »
Une boîte dans laquelle on fait cuire notre riz, c'est un objet vital.
N'y va pas, Annie. On n'a pas le temps d'y retourner, viens.
Elle y est allée quand même. Et j'ai attendu qu'elle revienne. Longtemps. J'ai même crié.
Annie !
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 Annie ! J'ai marché des heures. Je l'ai cherché partout. Je ne l'ai pas retrouvé. Et je n'ai pas non plus retrouvé son ami Ing. Et je me suis retrouvé tout seul. Tout seul. Et là, ma petite voix m'a dit « Pars. Pars maintenant. » Alors je me suis levé et j'ai marché vers le soleil couchant comme un fantôme. Je n'avais plus rien à perdre. Je n'avais plus peur. J'étais devenu invincible. Et puis j'ai perdu mon sac, avec mon riz. Je l'ai oublié au bord d'un ruisseau. Alors j'ai commencé à me nourrir de fruits, de champignons, de larves, de tortues crues, de chauves-souris crues. C'était risqué. Mais qu'est-ce que j'avais à perdre? Je n'ai plus que la peau sur les os. À chaque pas, je dois arracher les sangsues qui se collent à mes jambes. Mais j'avance. J'avance poussé par l'injonction de mon père. Tu vivras, mon fils. La Thaïlande n'est pas loin maintenant. J'en suis sûr. À un moment, je tombe sur un obstacle. Une rivière large et tumultueuse. Pour la traverser, je me déshabille, je fourre mes dollars dans ma gourde et je saute à l'eau en slip, en tenant mes affaires à bout de bras. Et là, quoi? À 20 mètres? Je vois trois jeunes soldats de 15 et 16 ans, tout vêtus de noir, qui braquent leurs fusils sur moi. Des Khmers rouges! Je n'ai pas eu peur. Ils m'ont emmené dans leur camp.
Alors vous venez de Thaïlande?
Ah non, camarade. Au contraire, je viens du Cambodge. Regardez-moi. Si je venais de Thaïlande, est-ce que je serais aussi maigre? Alors si vous voulez me tuer, tuez-moi. Mais d'abord, s'il vous plaît, donnez-moi à manger. J'ai tellement faim. Ils m'ont donné des bananes.
Qui vous a dit que nous vous tuerions? On ne tue pas les gens, hein? On a besoin d'eux pour reconstruire le pays. Vous allez rester avec nous et travailler avec nous. C'est tout. Vous êtes notre camarade, notre frère.
Ils m'ont attaché pour la nuit, après m'avoir dit qu'on était à 300 mètres de la frontière thaïlandaise. Mais le lendemain, ils m'ont traité d'ennemi. Et moi, je savais ce que ça voulait dire. Ils allaient m'exécuter. Le soir, ils m'ont attaché au lit, mais un peu moins fort. Je me suis endormi et j'ai été réveillé par un orage. J'avais des crampes terribles à l'estomac.
Camarade! Camarade, j'ai mal au ventre. Vite, sinon je vais faire dans mon pantalon.
Ils m'ont emmené dehors. Vous pouvez me desserrer un peu les bras? Et là, la pluie s'est mise à tomber, violente. Ils m'ont ramené dans ma tente, et là, avec la pluie, la corde s'était un peu détendue. Je pouvais bouger mes bras. Et là, d'un coup, le nœud de mon bras droit s'est défait, et puis le gauche. J'ai pris mon temps. J'ai profité d'un coup de tonnerre. Je suis sorti dehors, et je me suis laissé glisser jusqu'au bord de la rivière. J'avais repéré un câble qui l'a traversé. Je me suis accroché à ce câble, le courant était violent, le câble tremblait. Arrivé au milieu, le courant a failli m'emporter. Dans l'état dans lequel j'étais, je ne sais pas comment je suis arrivé à traverser cette rivière. Mais j'étais libre. Libre. Je n'ai pas pris le chemin le plus court. J'ai encore marché deux jours. Et je suis arrivé au-dessus d'une autoroute avec des voitures et des maisons de poupées. La Thaïlande. J'ai tiré cette histoire du livre de Pignatai, Tu vivras mon fils, aux éditions Archipoche.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.